Chapitre 6. Parmi les 127 victimes que Vic avait déjà affrontées sur les tables d'autopsie, il y avait eu 72 hommes, 43 femmes, 11 enfants et un nouveau-né. Une montagne de stats lui encombrait l'esprit, comme le nombre de noyés, de brûlés, d'accidentés, de blonds, de bruns, de chauves. Il se rappelait les adresses de chaque victime, les lieux, date de découverte des corps, le poids, la taille, les conditions météo, et le pire, les visages. Morbide galerie d'yeux crevés, de nez fracturés, de joues fendues, verdâtres, bleuâtres, ou juste grises. Ça ne le rendait pas malheureux, ni fou, ni obsédé. Ça le transformait juste en vieille armoire des affaires criminelles. Et ça lui encombrait la mémoire. Vic souffrait d'hypermnésie, une faculté de tout retenir, ou plutôt de ne rien oublier. Sa capacité exceptionnelle de mémorisation avait longtemps constitué un atout. Dans la petite enfance, il avait lu, écrit, appris, calculé plus vite que n'importe quel enfant de son âge. Mais l'éponge dans son cerveau, d'abord toute sèche, avait trop vite gonflé. Ses parents, conscients de ses incroyables prédispositions, l'avaient inscrit à des clubs d'échecs, d'astronomie, à des leçons de violon et de piano, ainsi qu'à une école pour élèves précoces. Il l'avait abonné à des dizaines de revues, en sciences, en histoire, en géographie. Lui avait acheté des dictionnaires à Noël, s'était amusé à l'imaginer en chercheur réputé, Nobel de physique, pianiste prodige. Vic, lui, avait rêvé de jouer au foot, de courir avec ses copains, de faire des parties de cache-cache. Mais on ne lui en avait pas laissé le temps. À 22 ans, il récitait le nombre pi à 1400 décimales après la virgule et remportait son premier concours sur la mémoire, au milieu d'adultes acharnés qui le percevaient davantage comme un adversaire que pour ce qu'il était. Un enfant. Tout était parti en vrille, surtout à l'adolescence. Il détestait les cours, ne pouvait plus voir une pièce d'échecs en peinture et se fichait de connaître la valeur de racine carrée de 2 au-delà de ce qu'une calculatrice était en mesure d'afficher. Il jouait Mozart, Schubert, Vivaldi, sans être capable de lire une partition, juste des airs appris par cœur. La soif d'apprendre se tarissait. Son cerveau manquait de place, d'oxygène, et Vic avait déjà plus de souvenirs que n'importe qui en fin de vie. On l'adorait. C'était une fierté d'avoir un ami capable de retenir un jeu de 52 cartes complet en moins d'une minute. Mais on le détestait plus encore. Jamais de normalité, d'équilibre. Il avait vécu ses premières relations amoureuses en accéléré. Il avait su comment séduire, émouvoir, ou frapper pour énerver. Il avait deviné les mensonges, des réponses différentes aux mêmes questions à des mois d'intervalle. Si l'existence était composée de la somme de nos souvenirs personnels, alors Vic, lui, avait plusieurs existences. Ou aucune. Il avait aimé son année à l'armée. L'exercice physique, la discipline, le maniement des armes, le même uniforme pour tous, le traitement d'égal à égal avec ses camarades qui ignoraient tout de lui. Les marches dans l'hiver et la boue, les pieds en sang. Sur le ring, à prendre des coups. Ce fut une révélation. Il ne serait pas chercheur en astrophysique, mais servirait son pays, noyé dans la masse grise des uniformes. On lui parla du métier de flic dans sa chambrée. Il fit vite son choix. Sa mémoire encyclopédique l'aiderait à résoudre des enquêtes, à traquer les criminels. 3 ans plus tard, il sortait lieutenant de l'école de police de Cannes-Écluse et choisissait son affectation à Grenoble, là où il avait grandi. L'année d'après, ses parents avaient déménagé et n'étaient pas venus à son mariage. Ils avaient fait une croix sur leur fils et « misérable » avait été le dernier mot qu'il avait entendu des lèvres de sa mère. Des années plus tard, Vic avait accepté de participer à une émission de télé sur la mémoire, avec l'espoir que sa mère et son père le voient, soient fiers de lui et renouent le contact. après ses 83 victoires d'affilée qu'il avait portées au jour de ses 40 ans, il n'avait toujours pas reçu de coup de fil. Il perdit la partie suivante et retourna à ses cadavres. Et plus de 24 heures après sa découverte dans un coffre de voiture, le 128e Maccabée l'attendait, sorti du frigo et allongé sur la table en acier, mordu par la lumière trop crue d'une lampe cyalitique. Ophélie R., l'une des légistes de l'Institut médico-légal de Grenoble, s'affairait déjà autour du corps lorsque V et V s'étaient présentés à l'accueil aux alentours de 1h du matin. Pas une heure pour pratiquer une autopsie, mais l'accident de bus de Champs-Rousse avait été médiatisé et au plus haut sommet de l'État. Le bus avait brûlé de part en part et digéré les corps. On avait exigé que les examens des 52 victimes, autopsie, ADN, priment sur les autres affaires, quelles qu'elles soient. R avait le nez protégé par un masque en papier. « J'ai démarré sans vous. Pesé, rasé, j'ai commencé à ouvrir le crâne. Désolé, mais c'est mon 7e client depuis 8h du mat et j'ai juste envie d'aller me coucher. » Et pour l'autopsie de l'individu éclaté sur les rochers, ce ne sera pas avant 2 ou 3 jours, il y a encore du boulot avec Champs-Rousse. C'est moins urgent pour lui. On sait ce qui lui est arrivé et il a seulement volé la mauvaise voiture. Rose resterait donc au frais dans son tiroir. Les flics avaient consigné ses affaires, l'argent, le Beretta, le téléphone portable trouvé dans l'habitacle et un autre au fond de sa poche, dans des scellés enfermés dans une armoire de la brigade. Pour le moment, Rose ne les intéressait pas. C'était surtout la victime du coffre et la recherche de l'inconnu de la pompe à essence qui retenait l'attention des enquêteurs. Tant mieux. Bon, je vous explique. Nous avons là un sujet féminin, 1m70, type caucasien, environ 58 kilos. Blonde naturelle, cheveux courts, à vue de nez une 20aine d'années, l'anthropo sera sans doute plus précis. Vêtue d'une simple culotte et d'un maillot de corps blanc et sale. Aucune marque caractéristique qui pourrait permettre de l'identifier, ni tatouage ni piercing. Les boucles d'oreilles ont été ôtées il y a peu, les trous dans les lobes n'étaient pas rebouchés. Importante fracture à l'arrière du crâne. Le sujet a été frappé avec un objet lourd et perforant, genre marteau, qui a entraîné une grave hémorragie dans la boîte crânienne. La peau du visage a été ôtée sur toute sa surface. On voit ici les marques de la découpe. On a dû s'y prendre avec un scalpel et dessiner un ovale autour du visage, passant par le front, les tempes, le menton. Puis on a tiré comme je le fais pour les autopsies. Quant aux yeux, ils ont été enlevés avec doigté, énucléation, globe oculaire tranché net. Vic s'approcha, le nez plissé. Le crâne avait été rasé et ouvert, mais la calotte était brisée là où on avait frappé. Vic chercha le cerveau et le repéra posé sur le pèse-organe. À côté, les mains tranchées, deux vulgaires araignées blanchâtres qui donnaient l'air de vouloir vous sauter dessus. Il revint vers le cadavre. Rapport sexuel? Je vous dirai ça dans une demi-heure. Il y a des marques d'entrave ici, sur la zone de coupure de cet avant-bras, et là-bas, aux mains. J'ai également préparé quelques échantillons à faire partir pour la toxico. Cheveux, ongles, humeur vitrée, ça permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur son régime alimentaire de ces dernières semaines et la présence de stupéfiants ou de médicaments dans son organisme. Mais va falloir attendre, là aussi. Une petite semaine, je dirais. Le labo est engorgé, avec Champs-Rousse. Vadim ne bougeait pas, les mains dans les poches. Vic comprit qu'il avait plus froid encore qu'à l'extérieur. Les autopsies le dégoûtaient. Mais qui pouvait prétendre aimer ça? Et puis, cette victime était à peine plus âgée que leurs filles respectives. Coralie, comme Hélène, juste 16 ans, aurait pu être cette jeune morte. Vic chassa vite cette idée insupportable et il vit au visage de son partenaire qu'ils avaient eu la même pensée. Seul un malade avait pu faire une chose pareille. La légiste les emmena à proximité des mains et désigna un trait d'encre bleue autour des poignets, juste au niveau de la tranche. On dirait qu'il a tracé ses cercles autour des poignets pour la précision de la découpe. Il les a suivis au millimètre près. Elle montra une longue cicatrice sur le dos de la main droite. Voilà une vieille blessure qui doit remonter à des années. Je vais faire partir tout ça chez l'anapath, il pourra nous en dire plus. Ils retournèrent auprès du cadavre. La légiste pratiqua son incision en Y. Vic songea au taré qu'il fallait être pour ôter un visage, mutilé, torturé de la sorte. Il revit cet homme en casquette, engoncé dans sa doudoune, tranquille, à la pompe. C'était cette banalité qui rendait certains de ces prédateurs si difficiles à appréhender. À l'instar d'Andy Janson, il pouvait être le voisin, l'ami, l'amant, et mener de parfaites doubles vies. Ouvrier le jour, bourreau la nuit. Lorsque la médecin écarta les larges pans de chair de part et d'autre du sternum et des côtes, lui parvinrent des effluves qui semblaient contenir toute la pourriture du monde. Les cadavres étaient un peu comme les whiskies, aptes à dégager des odeurs variées en fonction de leur ancienneté, de l'environnement dans lequel ils avaient vieilli, de l'humidité de l'air. Vic s'écarta pour laisser la légiste officier. À la voir manipuler ses instruments et se déplacer de la table au paillasse, il l'imagina en chef d'orchestre du macabre, en exploratrice de la mort devant laquelle les organes chantaient, les ligaments vibraient comme l'archet d'un violon. R s'attarda sur les organes génitaux, qu'elle pesa et disséqua. Elle confirma la présence de matière lubrifiante type préservatif.
On mutile, mais on prend ses précautions, pensa Vic avec horreur.
Une caractéristique des tueurs organisés, ceux qui parvenaient à se maîtriser malgré la montée en puissance de l'excitation et de l'envie de tuer. Après l'examen, Ophélie R. recousit du mieux possible une enveloppe vide, une vulgaire poupée de chair qui allait finir au fond d'un tiroir coulissant, peut-être des années durant, le temps qu'on l'identifie ou si l'ADN ne parlait pas. Vic observait les avant-bras tranchés. Pourquoi les avoir découpés ainsi et avoir désolidarisé le corps des mains? Il fit plusieurs allers-retours entre la paillasse et la table, dubitatif, avec l'impression soudaine qu'un truc clochait. « Vous avez un mètre ?» La légiste lui tendit un ruban souple. « Miss Direction, tu sais ce que c'est ?» R haussa les sourcils. Une technique d'illusionniste qui consiste à focaliser l'attention de l'auditoire sur un point précis pendant qu'une autre action est en cours. Ça fonctionne parce qu'il est impossible pour un être humain de traduire avec précision l'intégralité des stimuli qu'il reçoit. J'ai l'impression que... Vic mesura le diamètre du membre amputé gauche, puis sa circonférence, et fit de même pour les poignées des mains tranchées. Il fixa la légiste avec effroi.
Qu'est-ce qui s'est passé ici?
La mise direction. On a tous regardé ce corps, on lui a logiquement associé les mains sans faire attention. Ce n'est pas notre faute, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Vic s'empara des mains. Quand on observe bien, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes dimensions que pour les poignets. Il y a plus d'un centimètre d'écart. Il les positionna au plus près des bras tranchés. R arracha son masque de papier dans un souffle. Elle voyait soudain où Vic voulait en venir.
Merde. Ce sont pas les siennes ?